Et 21h, c'est l'heure de Par les temps qui courent, une émission qui écoute les artistes pendant une heure tous les soirs. On est absolument ravis de recevoir l'écrivain Orhan Pamuk.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler papi.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Riche et Orhan Pamuk.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Voici un livre qui creuse autant qu'il s'élève. C'est un livre qui va au plus profond des puits, comme le font les contes pour voir la lune, et qui va au plus haut du ciel, comme le fait l'individu moderne, pour contempler l'étendue de ses villes. Votre dernier roman, Orhan Pamuk, suit un homme qui suit une femme aux cheveux roux, qui suivent leur destin, qui s'agitent contre, se cognent contre, éprouvent les limites de leur liberté. En imbriquant les versions orientales et occidentales de l'histoire d'Œdipe, vous semblez vous demander, et nous demander à nous, si les hommes et les femmes vivent selon les histoires qu'ils se racontent et si l'on échappe finalement aux oracles et à toute forme de détermination. Bonsoir à vous, Orhan Pamuk, et bienvenue.
Good evening.
La femme aux cheveux roux paraît en France dans une traduction de Valérie Gay-Axoy et ce soir, vous serez traduit par Marguerite Capelle. C'est une traduction qui paraît aux éditions Gallimard. Qu'est-ce que c'est comme moment, le moment où votre livre paraît dans une langue étrangère, parfois plusieurs années après qu'il est paru dans votre langue à vous, sachant que ça vous arrive plusieurs fois, dans plusieurs pays différents, dans plein de langues différentes. Est-ce que vous avez un calendrier des traductions dans votre tête, Orhan Pamuk?
Yes. That in the last 15 years,
ces 15 dernières années, quand j'écris un livre, en général en un an, en fonction du rythme du traducteur ou de la traductrice, je suis publiée assez rapidement. Même mon agent des États-Unis a ce fantasme, l'idée qu'on arrive à tout publier en même temps, le même jour, en 45 langues. Et à chaque fois, je lui demande, mais comment est-ce que je vais réussir à assurer toutes les interviews? Et il me dit toujours, tu fais une seule grosse interview. Mais j'aime bien faire la tournée quand les livres sortent, et puis c'est aussi agréable de voir, par exemple avec le livre Neige, il a très bien fonctionné ici en France ou aux États-Unis, mais pas du tout en Chine. Les gens s'intéressent à Istanbul ou à la tradition de la peinture miniatérisme dans tel ou tel pays. Par exemple, les Espagnols adorent Istanbul, mais tous les pays s'intéressent à mes livres différemment, et ça m'intéresse beaucoup de voir ces différences dans leur accueil. Donc ça me plaît beaucoup. Et ce livre est publié partout dans le monde. Gallimard est un petit peu en retard, mais ils le prennent de face avec plus de philosophie. Les Français ont toujours un accueil plus philosophique pour mes livres.
Vous vous sentez une forme de responsabilité d'accompagner vos livres dans le monde, Orhan Pamuk? C'est comme une sorte de, je sais pas, de chemin qui vous dessine?
Parfois, j'ai le sentiment d'avoir une responsabilité vis-à-vis de l'éditeur en particulier. Dans les petits pays où il y a un véritable engagement envers moi, et quand on me dit venez et signez vos livres, je me sens responsable. Mais je ne pense pas que ce soit mon travail de promouvoir les livres pendant que je suis en train de les écrire. Je suis critique là-dessus, en particulier les premières années de ma carrière en Turquie. On me reprochait de faire trop de promotion, mais en fait toutes les télés m'invitaient, alors pourquoi pas?
Est-ce que c'est un moment différent, le moment où vous sortez vos livres en Turquie, justement, puisque votre voix excède votre voix à propos de la littérature?
C'est une très bonne question. Pas quand, avec ce livre-là, mais pour mon prochain, j'ai demandé à ma compagne... Comment ça se fait qu'il n'y a pas de sphère publique aujourd'hui, en fait? Il n'y a plus aujourd'hui une opinion publique, tout le monde débat un peu partout, il y a toutes sortes de débats un peu partout, c'est un... C'est ce lieu d'expression libre a disparu, en fait. Et mes amis me disent, bon, bah, puisque tu es célèbre, tu n'as qu'à aller dans les plus grands journaux. Mais ce plaisir de s'adresser directement au public, cet espace public où devrait y avoir un véritable débat, ça, ça a disparu. Mais bien sûr, c'est une question politique, la disparition de la liberté d'expression en Turquie. Et la question de la promotion des livres est assez mineure par rapport à l'ampleur de cette perte de liberté d'expression. Mais pour résumer, j'ai écrit ce roman en voyant que mon pays était en train de devenir un pays autoritaire. Et j'avais cette idée, cette histoire en tête depuis près de 20 ans. J'en ai beaucoup des histoires comme ça, il y en a que j'écris jamais. Mais depuis... Mais parce que justement il y a un lien et que les gens, les dirigeants, les partis, etc. Traitent mal leur peuple et que le peuple continue à l'aimer comme un enfant aime son père. C'est un sujet extrêmement intéressant, cette idée d'Oedipe, de Socrate, etc. C'est Sourabe. Ça approfondit en fait l'histoire. C'est une sorte d'archétype jungien de la relation père-fils.
On reviendra évidemment sur la manière dont vous utilisez ce mythe-là et ces archétypes pour nous proposer plusieurs étages de lecture de votre roman Orhan Pamuk. Fut un temps, des grands journaux turcs ne pouvaient pas publier d'interviews où vous vous exprimez librement sur la littérature et la politique. Qu'en est-il aujourd'hui?
Je raconte cette histoire un peu partout dans le monde, mais j'en ai vraiment envie, ça compte pour moi. C'est une bonne histoire pour illustrer la situation en Turquie. Il y a eu un référendum très important il y a 2 ans, un référendum très important pour l'histoire de cette nation.
Et le plus
grand journal turc, Hürriyet, qui est à moitié un journal populaire, un tabloïd, m'a proposé une interview et j'étais très content parce que les lecteurs de Hürriyet ne sont pas que des opposants, il y en a la moitié qui votent pour le gouvernement, donc j'ai pensé que mon interview aurait un impact, une influence. J'ai donc fait très attention et j'étais aussi en même temps ravie d'y participer. J'ai fait cette longue interview qui a été éditée par la suite et juste avant qu'elle soit publiée, ils m'ont rappelé pour me dire, malheureusement, malgré tout notre respect pour vous, nous ne pouvons pas publier ce papier, cette interview. Et ça a été un vrai choc pour moi. Aujourd'hui, je suis l'un des écrivains les plus connus de Turquie. C'est le plus grand journal de Turquie et ils ne peuvent pas publier une interview de moi avant les élections, avant le référendum. Cela montre les limites de la liberté d'expression en Turquie. Mais pour terminer sous forme de plaisanterie, je raconte cette histoire à beaucoup de gens de la même façon que je vous la raconte aujourd'hui. Et il y a un journaliste anglais du Financial Times qui m'a choqué en me disant Monsieur Pamuk, vous ne pouvez pas atteindre votre lectorat comme c'est triste. Et je lui ai rappelé qu'en fait mes romans se vendent mieux que Hürriyet.
Est-ce que ça vous met dans une position particulière de pouvoir vous exprimer ici très librement au micro d'une radio française et de ne pas pouvoir le faire dans le pays où vous vivez?
I don't want to exaggerate this. I don't want to focus
trop
on this.
Me concentrer là-dessus, de lui accorder trop d'attention.
If I say it's a special situation, they will immediately
si je dis que c'est une situation un peu bizarre, ils vont tout de suite s'en prendre à ceux qui rendent cette situation bizarre.
Très bien, dans ce cas, parlons littérature.
Bada! Bada! Togliti di mezzo la strada! Attenta a quello che fai!
Oedipe était le fils de Laios, roi de la ville grecque de Thèbes et prince du royaume. C'était un personnage important, si bien qu'avant même qu'il ne fût sorti du ventre de sa mère, on interrogea l'oracle sur son destin. Mais une terrible prophétie fut prononcée. Après cette phrase, j'avais marqué une pause et regardé, comme Maître Mammouth, les ombres indistinctes qui bougeaient sur l'écran de télévision. Selon cette épouvantable prédiction, le prince Oedipe tuerait son père, épouserait sa mère et s'assiérait sur le trône. Effrayé par cette prophétie, Laios fit enlever son fils dès sa naissance et ordonna qu'il soit abandonné dans une forêt. Le bébé fut sauvé d'une mort certaine par une dame d'honneur du royaume voisin qui le trouva entre les arbres. Comme tout en lui trahissait sa noble origine, Œdipe fut éduqué comme un prince dans cet autre royaume, mais en grandissant, il éprouva un troublant sentiment d'étrangeté. Pour en comprendre la raison, il consulta un mage sur son avenir et il entendit à son tour cette même prédiction. Le destin que Dieu avait tracé pour Œdipe, c'est qu'il tuerait son père et se marierait avec sa mère. C'est ainsi que, désireux de fuir l'épouvantable destin qui lui était réservé, Œdipe quitta précipitamment le pays. Il partit pour Thèbes, sans savoir qu'il s'agissait de sa ville natale. Alors qu'il traversait un pont, il se lança pour une raison futile dans une bagarre avec un vieil homme. Or cet homme n'était autre que le roi Laios, son père. Cette scène de non-reconnaissance et de violente empoignade entre un père et un fils, je la racontais en l'étirant pour la faire durer comme dans les films de Yeshilcham. Ils se battirent en roulant l'un sur l'autre, mais à la fin, Œdipe l'emporta, et d'un coup d'épée rageur, il tua son père.
Orhan Pamuk, on entend un extrait de votre roman « La femme aux cheveux roux » et juste avant ce grand cri tiré du film « Œdipe roi » de Pier Paolo Pasolini. Pour situer, et pour les personnes qui nous écoutent, on est rendu dans votre roman à une situation où un jeune homme se rend à travailler avec un maître puisatier. Il travaille très dur toute la journée, il creuse la terre toute la journée à la recherche de l'eau. Et quand le soir vient, leur relation se transforme et ils se mettent à se raconter des histoires. Le jeune homme, qui est le héros de votre roman, Orhan Pamuk, raconte cette histoire d'Œdipe roi. Alors tout à l'heure, vous l'avez évoqué très brièvement, et puis on voit bien que dans le texte, vous faites référence à la tradition littéraire profonde de cette histoire d'Œdipe. Quel rôle a ce mythe d'Œdipe, et la lecture qui en a été faite notamment par la psychanalyse, dans l'écriture de ce roman? Dans l'écriture du roman.
I don't want to be too self-conscious about.
Je ne veux pas trop me contempler faire au sujet de cette histoire d'Œdipe. Je ne sais même pas de l'ironie ici, en fait. Je suis un peu naïf, en fait. De manière très naïve, à l'âge de 16 ans, dans un lycée américain à Istanbul. Ils pensaient que c'était bon pour nous d'apprendre cette histoire et je n'arrivais pas à visualiser cette scène où Œdipe est censé coucher avec sa mère. Et je me demande toujours comment il est possible de visualiser cette scène. Mais c'est resté avec moi et près de 20 ans plus tard, je lisais la mythologie islamique classique pour écrire « Mon nom est rouge ». Qui est en quelque sorte une enquête sur les mythes islamiques traditionnels, puisque toutes les peintures, les peintures étaient des représentations de ces mythes. Et donc, celui qui est le plus illustré de tous, c'est Ferouzi. Sauf que dans ce mythe-là, le mythe de Roustam, c'est le père qui tue son fils. Et c'est un mythe extrêmement populaire dans ma région du monde, au Moyen-Orient, en Iran, mais aussi dans les Balkans, mais aussi de l'Inde moghole jusqu'aux Balkans, pas que dans la péninsule arabique. En particulier au XVe siècle, au XVIe siècle, c'était une même civilisation, en réalité, toute cette région du monde. Et cette histoire-là, l'histoire de Roustam, était extrêmement importante. Tout le monde la connaissait. C'était l'équivalent du Shakespeare anglais, en fait, ce Ferdowsi. Et personne n'était conscient de cette symétrie, peut-être, avec Œdipe. La seule différence, en fait, c'est le père et le fils qui tuent qui, mais il y a cette même angoisse, il y a cette mère qui pleure en arrière-plan. Les tragédies sont toujours des histoires d'aristocrates aussi. C'est toujours une histoire royale, jamais une histoire de paysans. Il n'y avait d'ailleurs pas d'histoire sur les paysans à cette époque.
Donc j'ai toujours eu cette idée de faire une comparaison entre ces deux mythes. Je suis aussi professeur de littérature comparée à l'Université de Columbia, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'écrire cette histoire.
Mais quand j'ai vu mon pays
se muer en régime autoritaire, j'ai aussi vu cette histoire de puisatier. J'ai vu un puisatier sur le terrain à côté de chez moi en 1989. C'était précisément cette période. Ils creusaient son puits avec un jeune apprenti et je l'avais interrogé. J'avais fait une interview. Ils cuisinaient dans le jardin. Un soir, il pleuvait exactement comme dans le livre et c'est là que je les avais rencontrés. Et ils avaient une relation très amicale. Ils regardaient leur petite télé portative. Mais il y avait cette figure paternelle du maître puisatier qui intimidait, qui dominait, qui imposait sa volonté et mettait une pression intense sur son apprenti. Je n'aimais pas ça, même s'il ne battait pas, mais il lui mettait la pression, mais il était malgré tout un meilleur père que mon propre père en même temps, qui était quelqu'un de très amical. Parce qu'il était aussi quelqu'un de très amical en même temps, en fait. Il s'occupait aussi de lui. Il y avait vraiment ces deux aspects. C'est quelque chose qui m'est resté en tête, cette figure paternelle double, ce père autoritaire et ce père en même temps très libéral, très aimant. Moi, j'avais un père extrêmement libéral qui n'a jamais essayé d'imposer son autorité sur moi, de me dominer. Mais ce n'était pas ce que je voyais chez les autres pères. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Et le sujet des pères et des fils est un sujet qui m'intéresse. C'est comme ça que j'ai approché ce sujet. Et puis, un jour, ça clique. Tous les romans sont comme ça pour moi. D'un seul coup, toutes les histoires se rejoignent. L'histoire du puisatier, qui est aussi une façon de civiliser, de combattre la nature. Et puis ce personnage de 16 ans qui apprend à découvrir le monde et qui se retrouve dominé, opprimé par d'autres. Mon autre idée, c'était aussi que Sophocle a écrit la pièce comme des pièces, comme les pièces médiévales ou même les pièces plus anciennes, pas d'une manière tournée vers la liberté. Quand Oedipe finit par se crever les yeux, le public est ravi de voir que cet homme qui a couché avec sa mère et a tenté d'échapper au jugement des dieux et qui n'est pas un bon croyant, ils sont heureux de le voir détruit. Mais si nous sommes détruits, si nous sommes heureux de le voir détruit autrefois, le public contemporain, au contraire, s'identifie à Oedipe et loue son individualisme, sa capacité à enfreindre les règles, à essayer d'échapper justement au verdict divin. Jean-Paul Sartre aurait beaucoup aimé Oedipe, mais dans ma région du monde, nous continuons à honorer le père cruel qui finit par tuer son fils parce que nous comprenons cette position, c'est aussi une façon de légitimer le pouvoir du roi et la continuité de l'État. Et donc on peut être cruel pour des raisons économiques, pour des motifs politique. Et donc ce que je dis à mes lecteurs, et en particulier à mes lecteurs turcs, c'est si vous voulez pouvoir exister en tant qu'individu, il faut être Oedipe. Si vous voulez un père puissant et une croissance économique, un père puissant qui vous apporte ce dont vous avez besoin, et peut-être sera-t-il cruel envers vous. J'aime suggérer des choses plutôt que de les dire de façon trop ouverte. Ce n'est pas parce que je ne peux pas parler librement, mais je n'ai pas envie de ruiner l'effet de mon roman.
Vous le dites, Orhan Pamuk, cette découverte de ce puisatier avec son apprenti à la fin des années 80 donnait lieu à des scènes très particulières la nuit, parce que d'un seul coup, ils devenaient amicaux l'un avec l'autre, et aussi parce qu'ils se racontaient des histoires. C'est aussi ce qui se passe dans votre roman. Est-ce que vous pensez que les histoires qu'on se raconte la nuit, ou les histoires qu'on nous raconte quand on est enfant, ou les histoires qui se racontent de manière souterraine dans une société, ont un rôle sur celle-ci ?
Do they play a part in having an influence? Okay, in they were first.
Dans la vraie vie, ce n'est pas si important par rapport à votre question, mais ce puisatier et son apprenti, son fils, en fait, regardaient la télévision. Ils regardaient des programmes turcs, des feuilletons qui mettent en avant ces mythes islamiques et le travail de Ferdowsi. J'étais en Iran il y a quelques mois, tout le monde les connaît, ce sont des histoires que connaissent les intellectuels, mais par contre, les Turcs ne les connaissent pas bien, alors qu'il y a 200 ans, ils les connaissaient très bien. L'occidentalisation de la Turquie, c'est aussi un oubli du passé. Quand j'ai écrit mon nom est rouge, il a été publié en Hollande, un journaliste hollandais très intelligent m'a dit « Il y a beaucoup de mythes dans ce livre, nous l'avons beaucoup apprécié, mais certains mythes, nous ne les comprenons pas, nous les connaissons pas. » Et ma réponse était que les Turcs ne comprennent pas non plus ces histoires parce qu'ils les ont oubliées. Mais les histoires reviennent de façon déguisée, de façon... Elles circulent. Shakespeare a adapté des choses. Ce sont des versions modernes, en fait. Mais le lectorat turc ne se rend pas compte ici, par exemple, que c'est de nouveau un récit de Rustam et Sohrab, en fait.
These old stories, I argue, and I
Donc, toutes
know,
ces
are like
histoires
Jungian
que je connais, ce sont des archétypes jungiens. Ils ont survécu, en fait. Ils sont dissimulés quelque part dans une part de notre esprit. Que ce soit dans le livre noir ou dans mon nom est rouge, je m'en sers. Je n'aime pas utiliser ce mot-là. Je me les approprie, peut-être. C'est un meilleur mot.
I know that I'm addressing
et je sais qu'en fait, je m'adresse aux esprits, aux consciences de mes lecteurs d'une manière dont ils ne sont même pas conscients, ils ne savent même pas comment je fais ça.
Vous dites que la Turquie contemporaine a oublié toutes ces histoires, mais vous, Orhan Pamuk, comment est-ce qu'elles vous ont été transmises? Est-ce que vous avez dû lire et relire, aller chercher ces histoires, ou est-ce qu'elles vous ont été transmises à vous?
Oui, mais my interest
mon intérêt pour la culture islamique classique et ses histoires a commencé à l'âge de 30 ans, en fait. J'étais en Amérique, j'avais un problème avec ma propre identité culturelle, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire davantage de choses sur cette culture, en laissant de côté les aspects religion et en voyant les paraboles presque calvinesques ou borgésiennes, jungiennes, et c'est cette partie-là qui m'intéressait, et c'est là que j'ai écrit le livre noir, et c'est ici, il y a seulement une histoire que je reprends.
Alors, quand on parle justement de la manière dont, bon là, vous parlez de Calvino, Borges, on peut parler des vieilles histoires, de la manière dont elles travaillent votre littérature en souterrain. C'est difficile pour des lecteurs ou des lectrices françaises, en lisant La femme aux cheveux roux, de ne pas penser à la mendiante aux cheveux roux de Baudelaire, à la manière dont cette femme, comme ça, hante le poème, hante la littérature, le spleen parisien, la littérature poétique amoureuse. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui est dans vos propres souterrains, Orhan Pamuk?
La femme aux cheveux rouges occupe une place importante dans la littérature européenne. Vous pouvez lire Shakespeare ou Sylvia Plath en littérature anglaise. La femme rousse est en colère, elle est puissante, elle est mystérieuse, on ne peut pas la contrôler. Mais nous n'avons pas beaucoup de rousses, c'est d'un point de vue tout simplement ethnique. Hein. En Turquie, 90% des rousses en Turquie ont les cheveux de teint.
Mais par ailleurs,
les femmes rousses en Turquie occupent un rôle social. Elles peuvent être des artistes. Elles assument cette personnalité. Elles choisissent de l'endosser. Cette différence qui les rend sexy. Ce sont des actrices, des femmes différentes, des femmes de pouvoir et des femmes qui exigent une certaine indépendance, une identité plus occidentale et qui choisissent cette identité. Donc on se demande ce que veut dire cette femme, et c'est provocateur. Et ce que dit mon roman, ce avec quoi je suis d'accord en personne d'ailleurs, c'est que quand une femme se teint les cheveux en rouge dans ma région du monde, c'est qu'elle est en train d'affirmer quelque chose. Donc il y a plusieurs couches d'interprétation. Elle se rend elle-même rousse et elle décide d'être rousse, et c'est ça qui m'intéresse au début.
Donc ce n'est pas un hasard si la femme avec laquelle le personnage de votre roman Fait l'amour pour la première fois est à la fois comédienne, assume une certaine liberté, notamment sexuelle et amoureuse, et a les cheveux roux, Orhan Pamuk.
Mais c'est aussi un roman très populaire, au sens où c'est ce que tout jeune garçon turc à cet âge-là rêve de vivre. Et d'ailleurs, tous les garçons du monde, pas que les Turcs.
France Culture, par les temps qui courent, avec Marie Richeux et Orhan Pamuk.
Sur les trois sentiers d'une mémoire, on découvre parfois, prise dans la brûlure verte des ronces, une lumière égarée. Son aile est rompue. Elle est loin de ses sœurs. Tout ce qui nous arrive nous survit ainsi, en souffrance dans l'espace.
Ce poème que lit Michael Lonsdal et qui termine par ces mots « Tout ce qui nous arrive nous survit ainsi, en souffrance dans l'espace », peut-être pour évoquer avec vous, Orhan Pamuk, la métaphore que peut constituer ce puits où travaille votre personnage principal et le maître puisatier. Je n'ai cessé de le lire comme la métaphore de nos vies où nous creusons, où parfois nous essayons d'échapper à la mémoire, au passé, aux souvenirs. Finalement, une des questions qui se pose à votre personnage principal, c'est peut-il échapper à ce qu'il a vécu lorsqu'il avait 16 ou 17 ans. Est-ce que vous voyez ce puits de cette manière-là, Orhan Pamuk ?
Le puits dans la littérature du Moyen-Orient
est un puits sans fond qui est rempli d'histoires, rempli de mythes. Même dans la Bible, Joseph et ses frères, il est toujours question de jeter un corps dans ce puits. Donc quand on parle de mythologie moyen-orientale, les puits sont la source de la fertilité puisqu'on trouve de l'eau au Moyen-Orient et hop, une ville surgit. Une grande ville. Et mes récits suivent aussi cette logique. Mais d'un autre côté, mes livres ne sont pas des compilations hasardeuses de mythologie. Je choisis, je manipule, je calcule. Cet effet. Dans la mythologie du Moyen-Orient, le puits est évidemment important, mais il y a aussi une dimension réaliste. Dans les années 60-70, il y avait tellement d'immigration à Istanbul, de gens pauvres qui arrivaient d'Anatolie, de la République de Turquie, que le gouvernement n'avait pas assez d'eau pour toutes ces personnes, et ces gens construisaient leurs maisons de leurs propres mains, comme je l'écris dans le roman Cette chose étrange en moi. Et je parle toujours un peu de ce même espace géographique, de cette même culture dans ce roman-ci. Cette fois-ci, je traite la question par le biais, par le prisme de la mythologie. Mais en tout cas, si vous avez un bon puisatier qui vous trouve de l'eau d'un seul coup, vous pouvez monter en classe sociale. La mobilité sociale commence comme ça, en fait. Il faut avoir une maison. Au début, elle n'est pas intéressante. Et puis, d'un seul coup, vous avez des arbres, de la vie grâce à l'eau. Donc, les puits ne sont pas seulement une source de vie dans la vie réelle, mais ils sont aussi une source de littérature dans la vie réelle.
Ce n'est pas non plus la première fois, Orhan Pamuk, que vous vous intéressez à la construction des villes, à la manière dont les villes se transforment, qu'il puisse s'agir d'Istanbul ou d'autres villes. Il y a une scène assez intéressante dans ce roman-là où on peut, grâce à un avion, observer la ville de haut et voir comment elle s'est étendue. Et on sent que c'est comme une sorte de révélation. C'est une révélation qui parle du présent de la Turquie, la manière dont ces villes s'étendent comme ça presque à l'infini. Ça raconte quoi de la Turquie selon vous ?
Deux choses. La première, c'est que c'est un pays qui s'enrichit. Mais ce n'est pas une prolifération très bien organisée ni très esthétique. Beaucoup de gens que nous avons qualifiés de paysans pauvres autrefois ont maintenant deux maisons, une à Istanbul et une au village, où ils retournent pendant l'été. Il y a eu un boom économique au cours de ces 15 dernières années. Nous pensions tous, nous croyions en la pensée sociologique américaine. S'il y avait une croissance économique, alors la classe moyenne se développe et alors il y a plus de démocratie et plus de liberté d'expression. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
Ce personnage, il va avancer, il va quitter ce lieu où il a été donc apprenti puisatier, il va faire sa vie, il va se marier, et puis il va s'occuper justement de construction immobilière, d'architecture, de projets immobiliers. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important pour vous, Orhan Pamuk, et on sent que ce personnage-là, ce n'est pas un hasard s'il devient en lien avec la construction.
C'est pas le cas dans ce roman, mais ce qui m'intéresse surtout,
c'est ce secteur effectivement de l'immobilier, de la construction, comme façon de voir la culture de mon peuple. Comment ces gens peuvent d'un seul coup construire des gratte-ciel en une génération? Ce père est un paysan pauvre et puis en 20 ans plus tard, il vit dans un gratte-ciel, construit des gratte-ciel. C'est ce sujet qui m'intéresse. En fait, ça va encore plus vite en Chine.
Social change, mais le changement social, le changement sociétal
s'exprime aussi à travers l'architecture. Tous ces gens qui changent de classe sociale, qui vont vers les hautes classes de la société, adorent les tours, adorent les gratte-ciel. Et en fait, c'est la même chose aux États-Unis dans les années 20 quand vous y pensez. C'est pour ça que les gens adorent toutes ces tours.
Quelle source d'inspiration c'est pour vous l'observation de la ville? Je ne les ai pas vues ces photographies, mais elles sont exposées en ce moment à Istanbul. Il paraît que vous prenez très régulièrement des photographies depuis votre balcon de la ville d'Istanbul, Orhan Pamuk. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette observation d'une ville qui change tous les jours?
Je
suis un photographe, mais la plupart du temps, quand je fais des projets artistiques, il n'y a rien de programmé au début. Vous vous intéressez simplement à l'aspect gadget de la chose et vous ne pensez pas forcément aux conséquences que ça pourra avoir. Et puis petit à petit, vous vous prenez au jeu. J'ai commencé à développer des séries où je m'imposais des thématiques, par exemple photographier tel ou tel aspect d'Istanbul. J'ai publié un livre de Gerhard Stedel de photographie chez Gerhard Stedel, qui est un éditeur de photographie artistique. C'est un livre qui s'appelle Balkan. Quatre mois, en 2012, j'étais un petit peu déprimée et j'ai géré cette dépression en prenant des photographies. Je les ai montrées à cet éditeur qui a été très intéressé, qui m'a demandé d'écrire un texte introductif et nous les avons publiés. Plus tard, il est venu voir mes archives et maintenant nous produisons de plus en plus de livres, de photographies. Il y a d'autres projets, Istanbul by Night, Istanbul sous la neige, les petites ruelles, etc. Ce n'est pas que Istanbul, j'ai d'autres projets aussi. Mais je suis un maniaque de la photographie. Mais au début, il n'y avait pas un objectif en fait quelconque. Mais maintenant, je commence à classer les choses et à travailler avec des assistants pour publier ce travail photographique. Mais c'est quelque chose que j'ai fait au départ pour m'amuser.
Qu'est-ce que vous aimez à regarder cette ville?
Actually, you don't like watching this.
Ce n'est pas très agréable de regarder cette ville. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Ce que j'aime faire, c'est regarder les paysages. Le reste, c'est du béton. J'aime les vieilles mosquées. J'aime l'Istanbul touristique comme tout le monde. Mais c'est tellement facile d'aimer ces endroits-là. Ce qui est intéressant, en réalité, ce qui m'intéresse, c'est de regarder aussi les arrière-cours, les quartiers pauvres, les quartiers à l'abandon. Et au final, l'art, c'est ça, c'est rendre quelque chose qui n'a rien d'agréable, qui n'a rien d'appréciable, et le faire apprécier. Et en parler d'une manière qui fait que votre mère se demande bien ce que vous trouvez dans cette rue et que tout le monde va s'y intéresser soudainement.
L'art et la littérature,
c'est se débarrasser des catégories que nous avons pour définir ce qui est intéressant ou ce qui ne l'est pas. Mais je travaille par instinct. J'ai cet instinct quand je prends les photos, j'essaie toujours de cadrer les photos sans voiture, par exemple. Et quand je faisais ce livre, l'éditeur m'a dit, mais il faut que tu aussi photographies aussi les voitures, en fait. Et il est en train de travailler sur un livre, les voitures dans la ville. Il y a toujours des attentes, en fait, par rapport à ce qui est censé être un travail artistique ou littéraire, mais en réalité, le but, c'est d'oublier ces règles et de trouver quelque chose de neuf.
Et c'est facile de s'en débarrasser des attentes des autres, Orhan Pamuk.
Non. Mais
l'art, c'est essayer et faire des erreurs et avoir des bons amis pour vous écouter. Non, c'est pas quelque chose de facile, mais ça fait 40 ans que je fais ça et je suis quelqu'un d'heureux. Mais quand on ne trouve pas la manière de rendre ça intéressant, de rendre ça bien, ça crée des frustrations. Et ça arrive. Ça m'est déjà arrivé et je suis allée sur le balcon prendre des photos. Et maintenant, ces photos sont publiées. Ce sont des photos qui représentent 4 mois d'incapacité à écrire correctement. Et au final, il y a un livre de photos.
Écrire, pour moi, ça a à voir fondamentalement avec quelque chose qui relève. Enfin, si j'étais sûr de croire en un Dieu, je dirais que ça relève de la résurrection. Mais vous voyez, je ne suis pas sûr. J'aime le mot résurrection et je suis intimement convaincu que le langage a pris la place du Dieu mort. Mais il s'agit de ça, voilà. Il s'agit de reprendre vie. Et quand Pérec dit que c'est par la littérature qu'il enterre ses parents, c'est la même chose que de dire que c'est comme ça qu'on reprend vie. Enfin. Faire la vérité, je crois que c'est une phrase c'est une expression de saint Augustin. Faire la vérité, ça a à voir avec une forme de deuil, mais aussi avec l'intelligence d'un territoire qu'on se crée. Et quand tous les territoires défaillent, quand ils relèvent tous de mauvaises raisons au fond, quand l'appropriation, l'appartenance, tout ça politiquement se délite, alors il y en a un qui reste toujours. Alors c'est quand même ce qui s'énonce, ce qui se chante, ce qui s'ouvre par la poésie. Quand je compose un livre, ça dure 2-3 ans, et c'est comme de l'invocation, j'essaye de faire venir les noms aimés, toute la littérature, et de fait une mémoire qui ne m'appartient pas, qui n'est pas la mienne. Et le fait que cette mémoire qui ne m'appartient pas me traverse me permet de m'ouvrir à toutes les identités que je n'ai pas, et surtout de ne plus en avoir, moi. Parce qu'au fond, l'identité, c'est peut-être, dans ce cas-là, la chose la plus réduite, la plus moche, au fond. La fiction est un territoire, pour le coup, de liberté.
Petit corbeau mordit ma joue. Je t'ai attendu, j'attendrai toujours. Reviens. Mordre ma joue. je crois que tu as compris mon cri. Là dans le coin dort mon horrible corps. Je ne vis plus qu'avec la mort. Je crois que tu as compris mon cri. Reviens mon joli.
Pamouk, on entendait juste avant ce chant de Catherine Hersley, la voix de l'auteur français Yannick Enel, qui disait beaucoup de choses à propos de ce qu'est pour lui l'écriture. Quand on a commencé notre entretien, vous m'avez dit « Je tiens pas à être très conscient de ce que je fais avec Oedipe et avec l'écriture. En revanche, j'imagine que toutes ces années à écrire des romans, à écrire tout court, Orhan Pamouk, vous a tout de même rendu assez conscient de ce que vous faites lorsque vous écrivez. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous qu'écrire ?
In fact, I want to avoid this one central answer to this.
Je veux essayer d'avoir une seule réponse à ça. Nous écrivons pour beaucoup de raisons différentes. Parfois, nous écrivons simplement parce que nous sommes éduqués pour écrire. Parfois, nous aimons un livre et un livre a du succès, alors nous avons envie d'en écrire un autre. Les raisons sont très différentes, mais j'ai peut-être des motivations. La première chose, c'est que j'écris parce que j'aime rester seul dans une pièce. Et ça, c'est quelque chose de très important. Au début, je pensais être peintre et j'ai été élevé par ma famille en ce sens et je voulais devenir peintre. Une autre raison qui fait de moi un écrivain, c'est que j'ai réalisé très tôt dans la vie que je ne voulais pas travailler dans un bureau, que je ne voulais pas donner d'ordre à d'autres personnes ou en recevoir. Je voulais vivre de façon indépendante, si possible, inventer mes propres histoires. Et je suis aussi un écrivain parce que j'ai un tempérament extrêmement artistique. J'aime jouer de tous les médias, mais j'écris des livres qui correspondent à ma personnalité. Par exemple, j'ai beaucoup de romans dans lesquels il y a des personnages qui parlent à la première personne. Quand j'étais enfant, j'imitais tout le monde et je les faisais parler à la première personne, toutes les personnes que je croisais dans ma maison. Donc, d'une certaine manière, il n'y a rien de très sophistiqué ni très complexe là-dedans. Mais je connais aussi l'histoire de la littérature. J'ai lu tout le monde, je sais ce qu'ils ont fait, donc je connais les enjeux. Je suis un écrivain heureux. Je ne me plains jamais de la difficulté qu'il peut y avoir à écrire. J'écris les livres que j'ai envie d'écrire. Ils sont maintenant traduits dans 62 langues. J'ai eu des prix. Je n'ai vraiment rien, aucun sujet pour me plaindre, à part la liberté d'expression en Turquie.
Il y a d'ailleurs dans ce roman qui vient de paraître en France, La femme aux cheveux roux, deux jeunes hommes qui doivent justement choisir, savoir si ils ont tous les deux très envie d'être écrivains, et puis il y en a un qui va faire autre chose et puis il y en a un qui va le devenir écrivain. Pour vous, Orhan Pamuk, puisqu'on parle du père, du choix du père, de la détermination, être devenu écrivain, c'est une manière d'avoir pris votre liberté par rapport à ce à quoi vous étiez destiné?
Actually, I had a father and I wrote an essay about this.
J'avais un père, j'ai écrit un essai là-dessus qui s'appelle La valise de mon père. J'avais un père qui voulait être poète, qui voulait être écrivain. Et il avait une valise pleine d'écrits qui n'avaient jamais été publiés. Il était très frustré de ça. Oui, on peut dire très facilement que ma vie est une réalisation des rêves non réalisés de mon père. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être conscient de ça? Je me pose toujours la question, je me dis que si je vais voir le médecin, je serais peut-être plus heureux, mais je ne serais pas un très bon écrivain.
La société pour laquelle je travaillais entretenait de bons rapports avec la municipalité et le parti au pouvoir. Si bien qu'elle acquérait des terrains dans les zones où s'appliquerait le plan de développement, prévoyant des modifications de la hauteur de construction autorisée et le passage de nouvelles routes, ce qui nous permettait un accès facilité aux crédits dédiés à l'édification de grands ensembles. Je n'avais pas le sentiment de faire quelque chose d'immoral. Mais quelquefois, je me demandais ce que dirait mon père s'il savait que son fils était comme cul et chemise avec les dirigeants du parti au pouvoir, qu'il gérait leurs affaires, qu'il prenait part à leurs activités institutionnelles et culturelles médiocres, à leurs cérémonies, aux discours ronflants. J'avais nourri des années durant une profonde colère contre mon père, à qui je reprochais sa disparition. Mais ce n'était plus un motif de plainte à présent, car je sentais que mon père n'aimerait pas ce que je faisais. Nous voulons un père fort, ferme et constant, qui nous dise ce qu'il convient de faire ou pas. Pourquoi ? Est-ce que parce qu'il est difficile de distinguer ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire, de discerner un acte juste et moral de l'erreur et du péché ? Ou est-ce parce que nous avons sans cesse besoin d'entendre que nous ne sommes ni coupables ni pécheurs ? Existe-t-il un besoin permanent du Père ? Ou bien recherchons-nous le Père dans les moments où nous sommes en proie à l'incertitude, où notre monde s'écroule et où nous sombrons dans la dépression. C'est un extrait Orhan Pamuk de La femme aux cheveux roux, traduit du turc par Valérie Gay Aksoy. Il y a plusieurs moments dans ce roman où vous vous demandez à quoi ça sert d'avoir un père. Et on sent bien que c'est une question qui est doublement adressée à l'intime, mais aussi aux politiques.
Fathers, mothers,
les pères, les mères sont si importants que nous ne nous posons jamais cette question de à quoi ils servent, parce qu'ils sont à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas les penser. C'est pour ça que nous avons besoin de médecins, parce que nous perdons toute rationalité. Et poser la question de à quoi sert quelque chose, c'est quelque chose d'extrêmement rationnel. Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui se demandait à quoi servaient les pères. Nous sommes à l'intérieur de nos parents. Nous voulons nous débarrasser d'eux, nous voulons être nous-mêmes. Cette dimension utilitaire, bon, c'est un combat beaucoup plus sombre. La personne heureuse, c'est la personne qui arrive à être, à clarifier ça dès sa jeunesse. Moi, je suis très reconnaissant à mon père parce que c'était pas une figure de domination, c'était pas un père dominateur. Et il aimait les livres, il avait tous les livres de Gallimard et il les avait à la maison, tous les livres utiles. Et il m'a libéré grâce à ça.
He also taught me, you know,
mais il m'a aussi appris, peut-être, il avait aussi des amis écrivains, des écrivains turcs, mais aussi d'autres. Et il m'a aussi appris que le succès en Turquie n'était pas quelque chose d'aussi important que ça.
So my fathers, yes, I agree, I argue, is the center of our lives.
Et nos pères sont au cœur de nos vies, c'est vrai. Mais plus on approche ce centre de façon directe, plus on risque d'être écrasé. En fait, je pense que tourner autour de la figure du père, inventer des histoires en tournant autour de cette figure centrale, faire des arabesques, des voyages en forme d'arabesque, zigzaguer autour du sujet, autour de ce cœur, ce centre, c'est ça ce que je défends, et je défends ça aussi avec cette lecture très naïve et très sentimentale, et les lectures que j'ai pu faire à l'université. Un roman, c'est quelque chose qui a un centre, et les pères sont aussi des centres. Ce n'est pas une comparaison très consciente. Je ne me suis pas dit, tiens, au fait, vous vous rendez compte, le roman a un centre, les pères sont des centres, mais... Mais c'est comme ça que nous organisons nos vies, en fait. Nous organisons nos vies en fonction de ce que sont les pères et les mères, et nous ne savons même pas, et sans même vouloir le savoir. Peut-être que certaines personnes ont besoin de le savoir, mais moi, je vais bien. J'ai peut-être résolu ce problème par l'écriture. Mais encore une fois, je ne pense pas que les choses soient si simples. Mais j'aime bien parler de ce sujet. C'est un sujet extrêmement inspirant. Mais au final, les réponses du livre, ou peut-être les questions plutôt qu'il pose, c'est comment est-ce qu'on peut, certains peuvent aimer un père qui les écrase ? Je ne vous donnerai pas la réponse.
Et évidemment, puisque au tout début, c'est un père qui est très engagé politiquement, Orhan Pamuk, engagé mais disparu, mais éloigné, on sent bien qu'il y a une possible métaphore du père et du régime politique. Vous vous demandez, pourquoi des citoyens, des femmes, des hommes, ont envie d'un régime autoritaire? Est-ce qu'ils en ont envie? Est-ce qu'ils tendent vers une sorte de figure paternelle comme ça, politique? Est-ce que c'est une métaphore qui vaut pour lire votre livre, Orhan Pamuk?
It's complicated. But yes,
c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des sociétés. Les États centraux autoritaires sont légitimes. Nous avons besoin de développement économique, de croissance économique. Malheureusement, notre pays est soumis à des menaces. Il nous faut cette figure de père cruel. Dans mon livre, qui est une sorte de comparaison sociale entre deux histoires littéraires, des histoires qui abordent cette question et qui remontent vraiment au fondement de la culture littéraire européenne et de ma région du monde. Je compare ces histoires, mais au final, en fin de compte, je questionne l'individualité, l'individualisme, l'histoire d'Œdipe, cette manière dont Œdipe porte au nu cette notion d'individualité, tandis que Rustam et Sohrab légitiment la cruauté du père, avec le prétexte de la continuité du trône, l'importance de l'État, etc. On peut lire des chroniqueurs turcs qui défendent le gouvernement en disant qu'un père doit toujours être un petit peu cruel, un peu méchant, pour qu'on puisse avoir une croissance économique. En réalité, nous connaissons une grande croissance économique. En tout cas, c'était le cas jusqu'à il y a 2 ans. C'est très complexe en Turquie. J'ai toutes ces idées, ce sujet, je plonge en fait dedans et je produis une histoire qui va faire réfléchir.
La dernière partie de votre roman donne la parole à cette femme rousse qui pendant longtemps a été une image, un fantasme, quelque chose à laquelle votre personnage principal, homme, rêvait de temps à autre. Et c'est un chapitre où on l'entend enfin parler.
J'étais surprise, mais on eût dit qu'une part de moi le savait déjà. Le théâtre m'a appris à ne pas balayer d'un revers de main des choses qui peuvent apparaître comme de simples coïncidences et à comprendre que ces choses ont un sens dans la vie. Ce n'était certainement pas une coïncidence que mon fils et son père aient tous les deux le même rêve de devenir écrivain. Que je croise le père de mon fils 30 ans plus tard, ici, à Ongoren, ou que mon fils souffre de l'absence d'un père comme son père en avait lui-même souffert. Et cela ne devait rien au hasard non plus si, après avoir passé des années à incarner des femmes éplorées sur des scènes de théâtre, la vie avait fait de moi une écorchée vive, ayant maintes raisons de pleurer. Après le coup d'état militaire de 1980, notre théâtre populaire infléchit sa position pour s'éviter des problèmes. Nous diluâmes quelque peu notre engagement, afin d'attirer un plus large public sous notre chapiteau. Je m'inspirais du Mesnevi de Rumi, d'anciens récits soufis, d'histoires comme Khosrow et Shirin, ou Kerem et Asli, à qui j'empruntais parfois des scènes et des dialogues amoureux pour construire mes monologues. Mais celui qui eut sans conteste le plus de succès, ce fut le monologue de la femme aux yeux baignés de larmes que, sur les conseils d'un vieil ami scénariste qui écrivait des mélodrames pour Yeshil Sham, j'avais adapté de l'histoire de Rostam et Sohrab.
C'est la voix de Romain de Becdelièvre qui lit la voix de cette femme aux cheveux roux, Orhan Pamuk. C'est avec elle que se conclut votre roman. Est-ce qu'il faut y voir un signe que la dernière voix, la dernière qui parle, c'est la femme?
Ce que j'aime dans ce dernier chapitre, ou en tout cas mon intention dans ce dernier chapitre, c'est que la plupart du temps, c'est vrai que ces histoires anciennes, elles sont symétriques, mais nous n'entendons jamais la voix des femmes, que ce soit dans l'une ou dans l'autre. Ces 10 dernières années, Je me suis, je pense, fixé un objectif, celui d'être féministe en Turquie, ce qui est une contradiction, rien que dans les mots qui sont associés. Ça fait rire tout le monde en Turquie, mais c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Et dans ce livre-là, j'ai fait un peu de promotion pour ce livre en Turquie et j'ai affiché cette volonté. J'ai dit, je voudrais être un peu féministe. C'est une décision que j'ai prise et toutes les femmes au premier rang applaudissaient, ce qui était à la fois très émouvant et très triste.
Est-ce que ça dit votre décision d'être un féministe en Turquie, Orhan Pamuk, la transformation plus générale de la société que vous observeriez? Est-ce que vous avez l'impression que de toute façon, femmes...
Vous me prenez au sérieux, c'est une déclaration très ironique.
Ah, je vous prends très très au sérieux et j'espère que vous l'êtes.
Of course, I want to do it as much as I can in many aspects.
Je veux faire ça le plus possible, mais malheureusement, je suis typiquement un homme par beaucoup de mes caractéristiques, mais ceci n'est pas un programme de confession intime. Le féminisme en Turquie a beaucoup d'avenir.
Parce que vous voyez des femmes, jeunes ou moins jeunes, se soulever, prendre la parole, agir différemment, publier des choses, faire des choses.
Maybe we have to address this question. There are
C'est une question qu'il nous faut traiter. Il y a beaucoup de stéréotypes au sujet des femmes, en particulier en Europe. L'une des choses que j'apporte dans ces deux livres, c'est que oui, il y a une répression extrêmement importante contre les femmes dans ma région du monde, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient liées à l'autoritarisme ou qu'elles soient liées au comportement dégoûtant des hommes, tout simplement. Je ne sais pas exactement quoi, je pense que c'est une association des trois, mais ce que j'ai envie de mettre en lumière, qui me semble intéressant, c'est qu'on veut écraser les femmes, mais que les femmes ne sont pas écrasées, elles résistent. Elles répliquent, elles racontent leur histoire, elles affrontent leurs hommes et elles se réunissent pour se raconter des histoires et des plaisanteries. Et en plaisanter, ma mère avait deux sœurs, une plus âgée et une plus jeune. Elles se réunissaient et avec toujours toutes sortes de ragots et des notes qu'elles prenaient sur leur mari et j'adorais les écouter. Et en particulier pour cette chose étrange en moi, j'ai vraiment tiré énormément de choses de leur ironie, des mots qu'elles utilisaient, de la colère qu'elles exprimaient souvent, mais toujours avec énormément d'humour, toujours avec énormément de quelque chose de très fort. Elles n'étaient pas du tout écrasées. On a cette idée en Occident que ces femmes sont complètement écrasées, dominées. En fait, ce n'est jamais le cas. Elles résistent. Et ce que je fais, c'est simplement essayer d'imaginer, de saisir cette voix qui résiste. C'est en cela que j'essaie d'être féministe et que je dis ça en même temps avec ironie, mais je veux raconter cette ironie. Les femmes ne sont pas écrasées, oppressées, opprimées au Moyen-Orient. Cette représentation est totalement erronée.
Et ça fait du bien de l'entendre. Merci beaucoup, Orhan Pamuk. La femme aux cheveux roux est traduit du turc par Valérie Gaye Aksoy. C'est publié aux éditions Gallimard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à Marguerite Capel de vous avoir traduit.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants,
au son ce soir, c'était Célia Dufour à la réalisation Lise-Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr, l'envoyer à vos copains, vos copines et les abonner à Par les temps qui courent, le podcast, pour ne rien rater de nos entretiens. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor, Lou Quevauvilliers qui m'aide à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, vous retrouvez le journal sur France Culture et on vous souhaite une très belle soirée. À demain au Salon du Livre, Livre Paris. On sera avec Pierre Bergougnou à 17h pour l'enregistrement de l'émission Par les temps qui courent.
Mais dans la svelte silhouette et si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui à la campagne de voyage. Dans les yeux, charmant paysage, font perdre coule le chemin. Qu'on est peut-être à comprendre, et qu'on laisse pourtant descendre. Sans sans avoir effleuré sa main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent. Vous ont une utile folie, laissez voir la mélancolie de, d'un avenir désespérante. Chères images aperçues, espérance d'un jour de soleil, vous serez dans l'oubli demain. Pour que le bonheur se vienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin.